Chapitre 44. Monsieur Morse rencontra Martin dans le bureau de l'hôtel Métropole. Se trouvait-il là par hasard, pour quelque autre affaire, ou était-il venu exprès, avec l'intention d'inviter Martin à dîner? Martin ne le sut jamais avec certitude, bien qu'il penchât plutôt pour la seconde hypothèse. Toujours est-il qu'il fut invité à dîner par Monsieur Morse, le père de Ruth, qui lui avait interdit sa maison et avait rompu leurs fiançailles. Martin n'en fut pas fâché. Il ne s'en formalisa même pas. Il était seulement curieux de savoir jusqu'où Monsieur Morse s'abaisserait. Il ne déclina pas l'invitation, se contentant de la repousser à plus tard, à une date indéterminée, et demanda des nouvelles de la famille, particulièrement de Madame Morse et de Ruth. Il prononça son nom sans hésiter, avec naturel, en s'étonnant lui-même de n'éprouver aucun frisson, de ne pas sentir son pouls s'accélérer comme autrefois. On l'invitait beaucoup, il acceptait parfois. Les gens se faisaient présenter à lui pour pouvoir le convier à leur table, et ce petit rien qui commençait à devenir une grande chose continuait à l'intriguer. Bernard Higginbotham l'invita aussi. Il fut de plus en plus intrigué. Au temps où il mourait de faim, personne ne lui ouvrait sa porte. C'était à ce moment-là qu'il avait besoin de dîner. Quand il maigrissait à vue d'œil, perdait chaque jour ses forces et s'évanouissait de faiblesse. Ironie du sort. Quand il criait famine, personne ne lui offrait de repas. À présent qu'il pouvait se payer 100 000 festins et n'avait plus d'appétit, les invitations pleuvaient. Pourquoi ? Il n'avait pas plus de mérite qu'avant. Il n'était pas différent. Toute son œuvre était déjà écrite à cette époque. Monsieur et Madame Morse l'avaient traité d'oisif et de paresseux en l'incitant par l'entremise de Ruth à prendre un emploi dans un bureau. Mais ils avaient déjà lu ses manuscrits, puisque Ruth les leur soumettait l'un après l'autre. C'étaient ces mêmes textes qui le rendaient célèbre aujourd'hui, et c'était au nom de ces mêmes textes qu'il l'invitait, simplement parce qu'on parlait de lui dans le journal. Une chose était sûre. Dans la mesure où les Morse n'avaient pas voulu de lui à cause de ce qu'il était et de ce qu'il écrivait alors, ils ne pouvaient l'honorer aujourd'hui qu'en vertu de sa célébrité, de sa position dans la société ou encore, savait-on jamais, de ses 100 000 $. Voilà comment la bourgeoisie évaluait un homme. Mais il avait sa fierté et méprisait ce type d'évaluation. Il voulait être estimé pour sa personne ou pour son œuvre, qui n'était après tout que l'expression de sa personne. C'était ainsi que Lizzie l'évaluait. Elle n'avait qu'un critérium, lui-même. Son œuvre ne comptait même pas. C'était ainsi que Jimmy le plombier et toute la bande l'évaluaient. Il le lui avait assez prouvé quand il était des leurs. Il le lui avait encore prouvé l'autre dimanche, à Shellman Park. Avec eux, foin de sa littérature, celui qu'ils aimaient, celui pour qui ils se battaient, c'était Martin Eden, un gars de la bande, un type bien. Enfin, il y avait Ruth. Elle aussi l'avait aimé pour lui-même, c'était indiscutable. Mais elle lui avait préféré les conventions bourgeoises. Si elle s'était opposée à sa carrière littéraire, c'était principalement, pensait-il, parce qu'elle ne lui rapportait pas d'argent. N'était-ce pas le reproche qu'elle avait fait à son cycle d'amour? Elle aussi l'avait pressé de chercher un emploi. Oh, bien sûr, elle avait utilisé des termes voilés, elle avait parlé plus volontiers de « position sociale ». Mais cela revenait au même. Il lui avait lu tout ce qu'il avait écrit. Poèmes, nouvelles, essais, wiki-wiki, la honte du soleil, tout. Et elle n'avait cessé de lui parler de travail, de situation. Bon Dieu, comme s'il n'avait pas assez travaillé, pas assez veillé, pas assez peiné pour se rendre digne d'elle. Ainsi le petit rien devint une grande chose. Il était sain de corps et d'esprit, mangeait bien, dormait bien, mais la petite chose devenue grande l'obsédait. J'avais déjà tout écrit. Cette phrase assiégeait son cerveau. Assis en face de Bernard Higginbotham, au cours d'un copieux dîner dominical au-dessus du magasin Higginbotham, il dut se contenir pour ne pas crier « J'avais déjà tout écrit !»« Et maintenant tu me nourris ?»« Alors qu'avant tu me laissais crever de faim ?»« Tu me fermais ta porte ?»« Tu m'envoyais au diable parce que je ne cherchais pas d'embauche ?»« Et j'avais déjà tout écrit !»« Tout !» Aujourd'hui, dès que j'ouvre la bouche, tu es pendu à mes lèvres et tu vénères d'avance mes moindres paroles. Je te dis que ton parti est pourri, qu'il est rempli de politicards véreux, et au lieu de te mettre en rogne, tu fais des « et des « bah » et tu admets qu'il y a du vrai dans ce que je dis. Et pourquoi ? parce que je suis célèbre, parce que j'ai de l'argent, pas parce que je suis Martin Eden, un bon gars pas trop bête, non. Si je te disais que la terre est plate, tu me croirais, ou plutôt tu ferais semblant de me croire pour ne pas me contredire, parce que j'ai des dollars, des montagnes de dollars, et mon œuvre était déjà là. J'avais déjà tout écrit, je te dis, quand tu me crachais dessus. Mais il ne cria pas. L'idée lui trotta longtemps dans la tête, le tourmenta constamment, mais il parvint à sourire et à garder son calme. Le voyant muet, Bernard Higginbotham prit les rênes de la conversation. Il avait réussi, lui aussi, et il en était fier. Il s'était fait tout seul. Personne ne l'avait aidé et il ne devait rien à personne. Il remplissait ses devoirs de citoyen et subvenait aux besoins d'une nombreuse famille. Il aimait le magasin Higginbotham, ce monument de ses soins industrieux et de sa compétence, comme d'autres hommes aiment leurs femmes. Il ouvrit son cœur à Martin. Il lui montra tout le génie commercial qu'il avait dû déployer pour créer son affaire. Et il avait d'autres projets, des projets ambitieux. Le quartier était en pleine expansion et le magasin devenait trop petit. Avec davantage d'espace, il eût pu déjà faire quantité d'améliorations. Et il les ferait un jour. Il attendait pour cela d'avoir les moyens d'acheter le terrain adjacent, souhaitant y construire une maison mitoyenne. Il louerait l'étage et utiliserait le rez-de-chaussée pour doubler la superficie du magasin Higginbotham. Ses yeux brillaient quand il parlait de la nouvelle enseigne qui s'étendrait sur les deux bâtiments. Martin oublia d'écouter. Le sempiternel refrain « J'avais déjà tout écrit » qui résonnait dans sa tête, couvrait le babil de l'autre. Cela le rendait fou. Il ne savait comment y échapper. « Ça coûterait combien, tu dis ?» demanda-t-il soudain. Son beau-frère s'interrompit au milieu d'une dissertation sur les opportunités commerciales du quartier. Il n'avait pas dit combien cela coûterait, mais il le savait. Il avait fait le calcul 100 fois. « Au prix de la pierre de nos jours, répondit-il, ça irait chercher dans les 4 000. Avec l'enseigne ? Ah, ça, j'ai pas compté. Ça viendra tout seul, une fois que le bâtiment sera là. Et le terrain ? 3 000 de plus. » Il se pencha en se léchant les lèvres et en agitant nerveusement les doigts vers Martin qui rédigeait un chèque et le lui tendit. Il jeta un œil sur le montant. 7 000 $. « Je pourrais pas payer plus de 6 %, dit-il. Martin faillit éclater de rire et demanda. « Ça ferait combien ?»« Attends voir. 6 %, 6 × 7 ? 420. Autrement dit, $35 par mois, c'est ça ?» Higginbotham acquiesça. « Alors, si tu n'y vois pas d'objection, on va s'arranger de la façon suivante. » Martin regarda furtivement Gertrude. « Je te fais grâce des intérêts si tu dépenses ces $35 par mois pour la cuisine, la lessive et le ménage. Ces $7 000 sont à toi si tu me garantis que Gertrude ne sera plus obligée de trimer. On est d'accord ?» Higginbotham déglutit bruyamment. L'idée que sa femme pût être dispensée de corvée domestique était un affront à sa pingrerie jurée. Ce magnifique cadeau était l'enrobage d'une pilule bien amère. Sa femme, ne plus travailler, il en était médusé. « En ce cas, tant pis, dit Martin, je paierai moi-même les $35 par mois » et il fit le geste de reprendre le chèque, mais Bernard Higginbotham s'en saisit avant lui en criant « J'accepte ! J'accepte !» En montant dans le tramway, Martin était là et écœuré. « Le scélérat » grogna-t-il en regardant l'enseigne. « Le scélérat ! Le scélérat !» Quand le Macintosh's Magazine publia la diseuse de Bonne Aventure, avec des illustrations de Berthier et de Wen, Hermann von Schmidt oublia qu'il avait qualifié ses vers d'obscènes. Il clama haut et fort que sa femme était l'inspiratrice du poème, s'assura que la nouvelle parvint aux oreilles d'un journaliste et donna une interview en présence d'un photographe de presse et d'un dessinateur. Il en résulta une pleine page dans un supplément dominical, émaillé de clichés, de portraits idéalisés de Marianne, avec maints détails intimes sur Martin Eden et sa famille, et reproduisant l'intégralité du poème en gros caractères par autorisation spéciale du Macintosh's Magazine. L'effet fut énorme dans le quartier. De braves ménagères se flattèrent de compter la sœur du grand écrivain au nombre de leurs relations, et celles qui ne pouvaient en dire autant se hâtèrent de lier connaissance. Hermann von Schmidt pouffait dans son petit atelier et décida de commander un nouveau tour à Alésée. « C'est mieux que de la réclame, » dit-il à Marianne, « et ça coûte rien. » « On devrait l'inviter à dîner, » suggéra-t-elle. Et Martin vint dîner, honorant de sa présence un adipeux bouché de gros et son épaisse rombière, personnage d'importance, susceptible d'être utile à un jeune homme ambitieux comme Hermann von Schmidt, qui avait astucieusement utilisé son célèbre beau-frère comme appât pour les attirer. Un autre convive avait mordu au même hameçon, le représentant de la compagnie des cycles ASA pour le Pacifique Sud, auquel von Schmidt désirait plaire pour obtenir la concession de la marque à Auckland. L'ami Hermann avait donc toutes les raisons de se féliciter de s'apparenter avec Martin, bien que, en son fort intérieur, il continuât à n'y rien comprendre. Certaines nuits, veillant silencieusement pendant que sa femme dormait, il avait essayé de lire les livres et les poèmes de Martin, et en avait déduit qu'il fallait être bien sot pour acheter de pareilles sornettes. Martin n'était pas dupe. Légèrement penché en arrière sur sa chaise, il couvait des yeux la tête de von Schmidt en rêvant qu'il la martelait de coups de poing bien sentis, et pend sur ta tudesque bobine satisfaite. Il y avait cependant une chose qu'il appréciait chez lui. Bien que pauvre et prêt à tout pour s'élever, il avait engagé une bonne pour épargner les dures besognes à Marianne. Martin parla au représentant de la firme ASA et, à la fin du dîner, l'entraîna à l'écart avec Hermann, à qui il apporta sa caution financière pour la création du plus moderne magasin de cycles d'Auckland. Il alla même plus loin et conseilla en privé à Hermann de briguer aussi la concession d'une marque d'automobile, car il était très capable de faire prospérer à la fois son magasin et un garage. Quand Martin prit congé, Marianne, les larmes aux yeux, se pendit à son cou pour lui dire combien elle l'aimait, combien elle l'avait toujours aimé. Sa tirade, il est vrai, fut entrecoupée de brefs silences gênés, mais vite palliée par des baisers éplorés et des balbutiements incohérents, que Martin interpréta comme des appels au pardon pour la défiance qu'elle lui avait manifestée au temps où elle le pressait de chercher de l'embauche. « Pas d'erreur, il est incapable de garder ses sous, » confia Hermann von Schmidt à sa femme. Il s'est fichu en rogne quand je lui ai parlé des intérêts. Il m'a dit que si je lui en causais encore, il me démolirait ma caboche de teuton. C'est ce qu'il a dit, ma caboche de teuton. Mais c'est un bon bougre quand même, allez, même s'il ne veut pas travailler. Il m'a donné un coup de pouce, c'est un bon bougre. » Martin croulait sous les invitations à dîner. Et plus il en recevait, plus il était perplexe. Il siégea à la place d'honneur dans un banquet du club Arden, au milieu d'hommes célèbres qu'il connaissait de nom depuis toujours, et tous lui affirmèrent que, lorsqu'ils avaient lu Le son des cloches dans le Transcontinental et La Pairie et la Perle dans The Hornet, ils avaient immédiatement deviné en lui un auteur de talent. « Bon Dieu, et moi qui crevais de faim et de froid, » songeait-il, « pourquoi ne m'avez-vous pas invité alors? C'était le moment. J'avais déjà tout écrit. Vous me nourrissez maintenant. » Mais c'était avant qu'il fallait le faire. Je n'ai pas changé un seul mot du son des cloches ou de la Pairie et la Perle. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour me donner la béquée? Ce n'est pas mon œuvre qui vous intéresse. Vous me nourrissez pour faire comme tout le monde et parce que c'est un honneur de me nourrir, parce que vous êtes des moutons et que vous suivez aveuglément le mouvement du troupeau. Mais que viennent faire Martin Eden et son œuvre dans tout ça? Se demanda-t-il tristement, avant de se lever pour répondre avec beaucoup d'esprit et d'à-propos à un toast plein d'esprit et d'à-propos. Et ainsi de suite. Partout où il se trouvait, au club de la presse, au Redwood Club, dans des thés mondains ou des réunions littéraires, on évoquait devant lui les premières parutions du son des cloches et de la Pairie et la Perle. Et, toujours, la même question non formulée rongeait Martin. « Pourquoi ne m'avez-vous pas invité alors? J'avais déjà tout écrit. Le son des cloches et la Pairie et la Perle n'ont pas changé d'un iota. Ce sont les mêmes textes, mais ce n'est pas pour eux que vous me nourrissez. Vous le faites parce que c'est la mode du jour, parce que toute votre clique s'est mise en tête de nourrir Martin Eden. » Et souvent, en de semblables occasions, il voyait brusquement surgir parmi l'assemblée un jeune voyou en veston croisé et Stetson. Cela se produisit notamment un après-midi, à la société Gallina. Comme il se levait de sa chaise et s'avançait vers l'estrade, il aperçut le jeune voyou qui franchissait la double porte de la grande salle. 500 élégantes tournèrent la tête, en suivant le regard de Martin, pour voir ce qu'il voyait, et ne virent que l'allée centrale, vide. Mais, devant ses yeux à lui, il y avait le jeune Caïd, qui montait lentement vers l'estrade, le chapeau vissé sur la tête. N'allait-il pas se découvrir devant les dames ? Martin faillit fondre en larmes devant ce fantôme de sa jeunesse, en songeant à tout ce qu'il attendait. L'intrus grimpa sur l'estrade, trébucha, s'effondra sur le seuil de la conscience de Martin et disparut. Les 500 femmes applaudirent doucement de leurs mains gantées pour encourager le grand homme timide qui les honorait de sa présence. Martin chassa la vision de son esprit, sourit et commença son discours. Le surintendant des écoles, un bon vieux, arrêta Martin dans la rue et lui remémora une ancienne séance houleuse qui avait eu lieu dans son bureau, à l'issue de laquelle il avait été renvoyé de l'école pour s'être bagarré. « J'ai lu votre son des cloches dans un magazine il y a quelque temps. Ça vaut Edgar Poe, » fit-il. « Magnifique. Je l'ai tout de suite dit. Magnifique. » « Oui. Et le mois suivant, tu m'as croisé deux fois dans la rue sans me reconnaître, » faillit répliquer Martin. « Ces deux fois-là, j'avais faim, et j'allais chez le prêteur. Pourtant, j'avais déjà tout écrit. Mais tu ne m'as pas reconnu. Comment se fait-il que tu me reconnaisses tout à coup ?»«
Je disais l'autre jour à mon épouse, » poursuivit le surintendant, « que ce serait une bonne idée de vous inviter à dîner un de ces soirs. Et elle a été tout à fait d'accord. Oui, tout à fait d'accord. »
« À dîner ?» fit Martin avec brusquerie, en montrant les dents.
« Mon Dieu, oui, à dîner, quoi. Enfin, à la bonne franquette, avec votre vieux surintendant, petit voyou !»
répondit-il nerveusement, avec une bourrade faussement facétieuse sur le ton de la camaraderie. Martin descendit la rue dans une sorte de vertige. Il s'arrêta au coin et regarda dans le vague autour de lui.
« Ça, par exemple, » marmonna-t-il, « le vieux a eu peur de moi. »